Bien sûr, c'est une électricité verte, certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super, ça, Claire ? Appelez le 3443. Service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
France Inter. Première radio de France.
14h sur Inter. Et c'est le flash d'Amélie Perrier.
Cette nation ne se rendra jamais à l'imposition de qui que ce soit. Les mots de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a pris la parole pour la première fois depuis la guerre lancée par Israël contre la République islamique. Une déclaration lue à la télévision d'État au sixième jour d'affrontement. La nation iranienne s'oppose fermement à une guerre imposée, tout comme elle s'opposera fermement à une paix imposée, a dit l'ayatollah, et de menacer les États-Unis, dont on ne sait pas encore s'ils vont s'impliquer aux côtés d'Israël. Hier, Donald Trump a demandé à l'Iran de capituler. Les Américains doivent savoir, a répondu le guide suprême, que toute intervention militaire de leur part entraînera assurément des dégâts irréparables. Fin de citation. Un homme en France s'est évadé de prison ce matin du centre pénitentiaire Grenoble-Vars en Isère. Il purgeait une peine pour trafic de stupéfiants, incarcéré depuis plus d'un an. Il a profité d'une sortie encadrée organisée par la prison pour fausser compagnie, sans violence apparemment. Une voiture l'attendait sur le parking de l'établissement pénitentiaire. Il s'est engouffré à l'intérieur et le véhicule a pris la fuite. D'importants moyens des forces de l'ordre sont déployés pour tenter de le retrouver. Lui était hors de la prison, mais il a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi, soupçonné d'être sur le point de livrer par drone des téléphones portables aux détenus. La police de Meaux a été alertée par la gendarmerie des transports aériens de Roissy-Charles de Gaulle. Elle avait repéré un drone au-dessus de la prison de Meaux-Choconin-Neumontier. L'homme arrêté a reconnu les faits, expliquant avoir été payé pour ses livraisons de téléphones. Les routes de la cocaïne partout sur la planète. Une demi-tonne de drogue a été saisie dans le Pacifique ces derniers mois par la douane française. Une partie a été retrouvée dans les panneaux d'isolation d'un conteneur réfrigéré sur un cargo en Polynésie française à destination de l'Australie. Un autre intercepté en Nouvelle-Calédonie. Les douaniers français collaborent avec leurs collègues australiens, américains et néo-zélandais. Il y aura un autre procès sur l'avenir de Stocamine. La collectivité européenne d'Alsace annonce faire appel du dernier jugement. Il autorisait le confinement définitif de déchets toxiques sur le site de Wittelsheim dans le Haut-Rhin. Déstocker les 42 000 tonnes de déchets à base de cyanure, d'arsenic et de mercure serait trop dangereux, a dit le tribunal administratif de Strasbourg hier. Mais les riverains, les associations environnementales et la région ne veulent pas garder ces déchets dans les sols. Un gros chèque, enfin versé pour de nouveaux logements. Le groupe Action Logement et la Caisse des dépôts et des consignations annoncent un partenariat de financement de 24 milliards d'euros sous forme de prêts via les banques du territoire. Des prêts financés par l'argent du livret A des Français. Ils serviront à construire 200 000 logements et à réhabiliter 200 000 logements du parc d'Action Logement d'ici deux ans.
France Inter, avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, présente
Bestioles, les aventures du monde animal.
Un podcast pour les 5-7 ans.
Le varan de Komodo, l'éphémère, le goéland, la musaraigne, le tapir.
Déjà 140 bestioles à télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Vous rêvez de vacances? Les chèques vacances de la NCV vous offrent un moment d'évasion alors que vos congés n'ont pas encore commencé. Patience. Voyage, hébergement, restauration, loisirs sportifs et culturels. Les chèques vacances de la NCV, c'est tout ça à la fois. Plus de 120 000 partenaires pour donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur le guide.ancv.com. L'évasion commence ici.
France Inter, il est 14h04. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Amélie Perrier.
Alors au sommaire de la Terre au Carré.
Alors nous allons nous intéresser aux cochons, la lutte enchantée de Cyril Dion, à la une des médias, François de Rugy du ministère de l'écologie à la désinformation sur YouTube, et puis le répondeur avant de vous retrouver à 15h.
À tout à l'heure.
Aujourd'hui, pour l'amour des cochons, raconté par
Caroline Dubois, cofondatrice du refuge Groin-Groin.
Et Jean-Baptiste Delamo, écrivain.
France Inter, La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Joël écrase sa cigarette dans l'un des bidons remplis de sable qui font office de cendrier à l'arrière des bâtiments. Malgré le système de ventilation, la chaleur à l'intérieur de la porcherie est déjà éprouvante. Il boit au tuyau d'arrivée d'eau et se passe la tête et le visage sous l'eau avant de retourner au nettoyage des enclos. Il lui arrive de se demander si la porcherie a enfanté leur monstruosité ou si ce sont eux qui ont donné naissance à celle de la porcherie. Cette viande de porc qu'ils ingèrent aussi depuis toujours plus par économie que par goût, et dont leur congélateur déborde, Joël ne l'a jamais aimé. Tu ne sors pas de table tant que tu n'as pas terminé ton assiette. Tiens, je t'en remets une louche. Il faut manger si tu veux devenir un homme et pas rester une demi-portion comme t'es. Tandis que Serge a toujours mis, lui, un point d'honneur à la dévorer, à lécher le fond de l'assiette, à ronger les os, à aspirer le jus, à quémander une deuxième ration pour satisfaire leur père. Et sans doute est-ce ici, à cet instant de l'enfance, que leur différence s'est affirmée. Dans cette obstination de l'un à engloutir la viande des porcs, à assimiler littéralement leurs conditions et l'existence de la porcherie, et cette réticence de l'autre, cette répulsion viscérale, primitive, à l'idée de n'être qu'un rouage mâchant, digérant la chair que l'élevage déverse dans leurs bouches grandes ouvertes, fières, reconnaissantes, rassasiées, puis mâchant, digérant, chiant cette chair qui sera de nouveau épandue sur la terre grasse des plaines, avec les boues savamment transformées par la station d'épuration municipale, mélangée au lisier des bêtes contaminées par les produits qui leur injectent et leur font ingérer, puis qu'eux-mêmes ingèrent à la suite des bêtes, pour servir d'engrais aux céréales qu'ils font pousser et donnent à manger aux porcs, créant ainsi un cercle vertueux ou infernal dans lequel la merde et la viande ne sont plus dissociables. Caroline Dubois et Jean-Baptiste Delamo, bonjour.
Bonjour.
Le texte que je viens de lire est extrait, Jean-Baptiste Delamo, de votre ouvrage Règne animal, qui a reçu en 2017, entre autres, le prix du livre Inter et qui retrace la vie d'une lignée d'éleveurs de porcs sur 5 générations. Est-ce que d'abord vous pourriez nous raconter tous les deux comment les cochons sont entrés dans vos vies respectives, Caroline Dubois?
Oui, c'était il y a maintenant plus de 20 ans. J'étais en vacances et je visitais un château et une dame apprenait dans un parc un cochon à répondre à son nom. Donc je me suis intéressée à la question, ça m'a fait rire. Pour les mauvaises raisons, j'ai dit que ce serait sympa d'en avoir un chez moi. Et de là, ma vie a changé.
Et vous en avez eu un chez vous après ?
Oui, j'en ai eu deux après, pendant une vingtaine d'années, qui ont vécu à la maison, comme mon chien ou mon chat. Tout
et
à fait.
Et votre refuge, alors, il est né à quel moment dans
il
tout ça ?
Il est né 2 ou 3 ans après, une fois que voilà, j'ai commencé à m'intéresser à la question, partager les informations que je pouvais recueillir sur ces animaux pour que les familles comme moi, qui avaient des cochons de compagnie, entre guillemets, puissent savoir comment s'occuper d'eux, et on a décidé d'avoir un refuge, parce qu'il y avait beaucoup d'abandon pour le temps de replacer les animaux. Tout a commencé comme ça.
À Neuvillette en Charny, hein.
C'est ça, en Sarthe, tout à fait.
C'est près du Mans. D'où viennent d'ailleurs les cochons qui sont là sur vos 17 hectares?
Alors en fait, il y a vraiment autant d'origine que d'histoire d'animaux. Vous avez des saisies qui sont faites par les services de la préfecture, gendarmerie, etc. Mmh. Des cas d'abandon, des cas de maltraitance. Vous avez des salariés d'élevage qui vont aller sauver un animal en particulier, parce qu'ils sont attachés à lui pour X raisons. Et puis voilà.
Et actuellement, vous avez combien de cochons chez Grand Groin ?
Alors actuellement 44, et on est monté jusqu'à 50, mais on a des animaux qui sont un petit peu âgés maintenant, donc ouais. On a eu quelques départs.
Et a priori, ce sera leur dernière demeure, ou vous pouvez aussi appeler à l'adoption ?
Alors en fait, on appelait à l'adoption avant, on ne le fait plus parce que c'est difficile pour des particuliers de garder un cochon pour une vingtaine d'années, et donc on ne veut plus les changer d'endroit. En revanche, on continue de placer les cochons qu'on ne peut pas prendre au refuge par manque de place.
Donc 20 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un cochon ?
D'un cochon vietnamien, et c'est une dizaine d'années pour un cochon d'élevage.
Et vous, Jean-Baptiste Delamo, de votre côté, comment votre route a croisé celle des cochons ?
D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par cet animal, mais je crois comme par tous les animaux a priori mal aimé, mais le cochon me plaisait particulièrement. J'avais une affection pour cet animal, et j'ai toujours pensé dès gamin que j'aurais un jour un cochon chez moi, que j'aurais un cochon de compagnie.
C'est vrai, ouais, c'était vraiment quelque chose qui était fixé fixé dans votre esprit et...
Oui, oui, j'étais très, très curieux des interactions qui étaient possibles avec eux. Puis avec le temps, j'ai aussi appris à les connaître, à les découvrir différemment et à mieux comprendre leurs besoins aussi.
Ouais, vous dites qu'enfant mal dans votre corps et harcelé, vous êtes pris de passion. C'est aussi dans ce contexte-là que vous avez appris à aimer les cochons ?
Je pense, oui, les cochons et tous les autres animaux que je pouvais voir dans la campagne du sud-ouest de la France qui font partie de ces animaux mal aimés, les serpents également, etc. C'était des animaux, je crois, qui me touchaient parce que justement, ils étaient aussi victimes d'une forme de stigmatisation ou de rejet.
Ouais. Est-ce qu'il y a eu des éleveurs dans votre famille également ou pas ?
Alors, j'ai découvert, mais très tardivement, après même avoir écrit Règne animal, que mon arrière-grand-père maternel était éleveur de cochons et boucher, ce que j'ignorais totalement.
Ouais. Et vous ne l'avez pas connu ?
Je ne l'ai pas connu. Il y a eu une rupture entre lui et mon grand-père. Donc cette histoire, en fait, était complètement passée à la trappe pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler.
C'est incroyable quand même.
C'est incroyable.
Ouais. Vous qui avez écrit sur une lignée en plus d'éleveur.
Complètement fou. Ouais.
Que ce soit inscrit aussi dans votre histoire. Qui est Frida ? Jean-Baptiste, un mot s'il vous plaît. Présentation, on l'embrasse d'ailleurs si elle nous écoute.
Frida, c'est une petite truie de type vietnamien, donc dans la catégorie des cochons nains, on va dire, dont je partage maintenant l'existence depuis 2 ans, puisqu'elle est, c'est une petite truie que j'ai sauvée quand elle était porcelée encore, qui était abandonnée.
Mais abandonnée comme ça
C'était des gens qui l'avaient adoptée et qui se sont aperçus très rapidement qu'un cochon c'était aussi un animal contraignant et qui du coup, s'en sont séparés. Il y a énormément d'abandon de la part des propriétaires de cochons. Un porcelet, c'est certes charmant, mais c'est aussi un animal qui a des besoins très précis.
Il faut être
en mesure quand même d'assumer la charge que ça représente. Et du coup, je l'ai accueillie chez moi et elle vit avec moi désormais.
Et vous en avez eu d'autres avant, hein, c'est ça, avant Frida ?
Avant Frida, j'ai eu John qui m'a conduit à rencontrer justement Caroline.
Ouais.
Tout à fait.
Et vous avez participé aussi à Grand-Groin ?
J'ai été très longtemps membre du conseil d'administration du refuge Grand-Groin et je reste toujours proche de l'association et du refuge absolument.
On va écouter ensemble un extrait du film Okja de Bong Joon-ho.
Il nous fallait un miracle et nous en avons créé un. Cette merveilleuse petite créature sera bientôt une révolution dans l'industrie de l'élevage. Nos super cochons ne seront pas seulement magnifiques et bien gras. Ils laisseront aussi une empreinte environnementale la plus faible possible, consommeront peu de nourriture et produiront moins d'excréments. Et le plus important, leur chair devra avoir bon goût.
Voilà, et c'est 2017 d'ailleurs, la sortie de ce film Okja. On a vu ces dernières semaines les images de ces giga-porcheries qui se multiplient en Chine et qui ressemblent à de gigantesques barres d'immeubles. Qu'est-ce que racontent pour vous, Caroline Dubois, ces fermes verticales qui peuvent abriter des centaines de milliers de cochons aujourd'hui ?
C'est vertigineux. Déjà qu'en France, l'élevage industriel est déjà vertigineux en soi, mais là, ça prend des proportions, parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'humains pour être aux manettes de ça. Et vu les conditions d'élevage en France sur des élevages industriels qui seraient déjà plus petits, j'ose pas imaginer le calvaire de ces pauvres cochons à l'intérieur de ces bâtiments.
Jean-Baptiste Delamont, la Chine compterait 200 fermes avec donc ces gigas usine, à la suite de la fièvre porcine d'ailleurs en 2018, c'est la décision du pays de d'ériger justement cette industrie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, c'est terrifiant. Ce sont souvent des fermes avec plusieurs dizaines d'étages, des centaines de milliers de truies enfermées, des fonctionnements quasi intégralement automatisés, donc avec extrêmement peu de salariés, ce qui laisse deviner une déshumanisation totale de l'élevage au premier sens du terme. Et bien évidemment, la question du contrôle vétérinaire est quasiment impossible sur ce type de structure. Et on voit d'ores et déjà, même si ces types de fermes sont relativement récents, l'impact environnemental désastreux que ça a autour de ces villes où elles sont implantées.
Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe justement d'un point de vue écologique ?
Alors, il y a une contamination des sols, l'évacuation des lisiers est éminemment problématique, comme elle l'est chez nous en France, en Bretagne en particulier. Contamination des nappes phréatiques, des cours d'eau, en plus des problèmes d'émanation, en particulier pour les personnes qui vivent à proximité de ces structures. structure, l'air devient irrespirable. On imagine ce que ça doit être à l'intérieur pour les cochons.
Ouais, alors même que ces usines ont été construites sous couvert de préserver la santé, puisque c'était pour contrer certains virus.
Oui, tout à fait. Alors c'est dans l'idée de préserver finalement les intérêts humains, encore une fois. Je crois que c'est aussi le cas dans une autre mesure en France avec la législation qui est supposée assurer une forme de d'éthique et de bien-être animal dans les élevages intensifs. En réalité, on s'aperçoit que toutes ces questions-là sont quasiment inapplicables à la réalité du terrain et que ça n'engendre ces systèmes-là. N'engendre que souffrance pour les animaux.
Caroline Dubois, est-ce qu'à votre avis, on pourrait voir arriver en France de telles usines où ce serait inacceptable dans notre pays ? Est-ce qu'il y a encore une limite, à votre avis, qui peut être posée ?
Honnêtement, je pense que ce serait totalement envisageable d'avoir ça en France, puisque de toute façon, il y a peu de contrôle déjà dans les élevages industriels actuels. Donc, sous couvert de pouvoir faire plus de cochons, plus de production, oui, je pense qu'on pourrait voir ça arriver. Maintenant, c'est le cas. Il y a pas mal d'élevages industriels qui ont plus de 1000 truies dans les élevages eux-mêmes, de gros élevages industriels. Mais c'est vraiment dommageable pour tout le monde. C'est vraiment pas la marche à suivre pour les animaux.
Là, on parle de 200 000 animaux dans un même immeuble.
Je pense que même on peut même pas l'imaginer. Les chiffres sont tellement grands que ça limite notre imagination.
Ouais, la Chine, qui est le premier producteur mondial de porc, avec une demande qui ne fait que croître dans le monde, donc ça raconte aussi finalement nos modes de production et nos modes de consommation, Jean-Baptiste Delamo.
Oui, bien sûr, parce qu'on voudrait penser que la consommation de viande porcine a tendance à baisser. En réalité, c'est peut-être propre aux pays occidentaux, en contrepartie, on va voir que par exemple,
on va sur la volaille.
On
se dirige sur la volaille. Ouais.
Mais de façon globale et mondiale, en revanche, effectivement, la consommation de porc est en augmentation exponentielle. Ouais.
Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler évidemment des conditions aujourd'hui de cet animal particulièrement maltraité autour de nous. Et puis quand même, il y a plein de choses à dire sur les capacités cognitives, l'intelligence, la sensibilité des cochons. Et puis on attend vos messages sur la page de la Terre au Carré.
Découvre-toi, couvre ma bouche, comme l'autre fois. Quelle bonne idée de parler l'amour, parler d'amour, parler l'amour, je veux parler d'amour, parler. Avec toi, pas plus bas, là c'est bien.
parler l'amour. Zao de Sagazan, à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Dans leur salle de maternité, ces dames cochons ont plein de choses à se dire. Pendant des mois, Céline Tallet a enregistré toutes leurs conversations.
Donc vous voyez, là, on entend des grognements qui sont de plus en plus longs. Ça veut dire que l'émotion a le temps vers le négatif. Puis si on continue d'écouter le même animal, on entend quelque chose de plus aigu. Donc là, ça vient vers des couinements qui sont aussi signes d'une plus forte excitation et de quelque chose de plus négatif. Là, c'est un cochon qu'on avait mis tout seul. Et donc les cochons, c'est des animaux sociaux, ils aiment être en groupe. Tout seul, ça leur plaît pas trop.
Décrypter la communication des cochons, c'est ce que fait donc Céline Tallet et qui a travaillé pour INRAE sur les vocalisations en particulier des cochons. On parle de cet animal avec vous, Caroline Dubois, cofondatrice du refuge Groingroing, et Jean-Baptiste Delamo, écrivain. Est-ce que vous avez un dialogue avec Frida, Jean-Baptiste Delamo? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre?
Absolument, un dialogue qui passe certes à la fois par des vocalises, et les cochons en ont un certain nombre pour se faire comprendre, mais aussi par un langage physique qu'on apprend très rapidement à décrypter en vivant au quotidien.
Des exemples en tête ou pas pour qu'on puisse comprendre?
On voit très rapidement quand un cochon est en confiance, qu'il est heureux, ou il va battre de la queue comme un chien, frétiller de la queue comme un chien, avoir le groin en l'air, faire des petites vocalises assez brèves et joyeuses. Et un cochon qui a peur, qui va être fuyant, qui va essayer d'éviter la présence humaine, voilà, c'est des signes assez évidents.
Caroline Dubois, quand vous accueillez justement un cochon sauvé par exemple d'un élevage, il y a aussi tout un langage que vous essayez de comprendre pour essayer d'établir son état général.
Oui, tout à fait. En fait, comme Jean-Baptiste le disait, ça passe par les bruits, mais ça passe aussi par le langage corporel. Et puis, au refuge, on a beaucoup de cochons, donc en fait, on a pris l'habitude de décrypter ce langage. Alors évidemment, c'est pas des études, hein, c'est vraiment empirique, mais c'est maintenant assez facile de lire les cochons pour nous. Et on doit y faire très attention, parce que quand on doit mettre des cochons ensemble pour la première fois, il y a tout un système hiérarchique qui va se mettre en place, et donc il faut être présent, il faut voir comment les cochons interagissent entre eux, pour être sûr que tout va bien se passer dans le groupe, et c'est très intéressant de voir justement ces langages qu'ils ont entre eux, ces positions et voilà, et la permission aussi que donnent par exemple des cochons qui seraient un petit peu plus chefs, on va dire, vis-à-vis de leurs congénères, et les limites qu'ils peuvent mettre entre eux, c'est vraiment très très riche.
Alors vous, les cochons que vous recevez, donc on l'a dit, hein, ont vécu avant évidemment des choses assez désagréables pour la plupart, hein, puisqu'ils viennent d'élevages intensifs. Il y a un stress particulier quand ils arrivent dans votre refuge ou pas, que vous percevez bien?
Oui, tout dépend des histoires, mais vous avez des animaux qui vont vite se remettre de ce qu'ils ont vécu de façon, je dirais, psychique, enfin en tous les cas psychologique, où vous voyez que les animaux vont tout de suite avoir du lien avec vous et être là, et puis des animaux qu'on a du mal à apprivoiser entre guillemets, parce qu'ils gardent vraiment de mauvais souvenirs des humains, et ils ont tendance à appliquer ces mauvais souvenirs à tous les humains qu'ils croisent.
Ouais. Et très souvent, ce sont des animaux fragilisés en raison de la sélection génétique?
Alors, tout à fait. Ça, c'est vraiment une caractéristique qu'ils ont tous. Ils ont des dizaines de problèmes physiques. En particulier, trop de poids sur leurs pattes. Donc, les pattes ne sont pas assez costauds pour pouvoir supporter toute une vie durant le poids des muscles qui est donc recherché dans la sélection génétique. Vous avez donc des sèmes, c'est des fissures qui se créent sur les sabots, des abcès de pieds qui sont très récurrents, de l'arthrose, de l'arthrite, enfin, vraiment des problèmes locomoteurs énormes. Et je pense que c'est en majorité le plus gros des problèmes qu'on a avec eux vient des problèmes locomoteurs.
Et ça se soigne ou pas?
Alors très difficilement, c'est des conditions chroniques. On va par exemple soigner un abcès de pied, mais il va revenir. Il faut faire attention. Du coup, nous au refuge, par exemple, au sol, donc on est vraiment très attentif au sol. On met des tapis en caoutchouc comme pour les chevaux pour amortir des sols un peu durs, de la litière avec de la paille et des copeaux de bois pour avoir un petit matelas. Ce qu'ils n'ont absolument pas en élevage intensif, puisque vraiment l'élevage intensif, c'est du béton avec des ajourés, des caillebotis, et donc en fait ils se coincent les pieds là-dedans. Enfin, et quand on sait comment ils ont mal aux pieds, c'est une maltraitance en elle-même, quoi.
Jean-Baptiste Delamo, cet animal, il véhicule plein d'idées, hein, reçues, une sorte de vacuité, de saleté. Comment vous expliquez qu'on comprenne si mal au fond cet animal, alors que toutes les études en éthologie montrent une grande sensibilité, une grande intelligence chez le cochon?
La question est complexe. Je pense que tout d'abord, sur la quasi-totalité de l'histoire que nous avons en commun avec cet animal-là, nous n'avons cherché qu'à le domestiquer en vue de l'exploiter. Ce qui en a fait un animal qu'on a souvent confiné dans des espaces enclos, qu'on a accusé de saleté, alors que les cochons en réalité sont des animaux extrêmement propres.
Pourtant, on a toujours ces images, on les voit dans la boue en train de se prendre des bains.
Alors, c'est une réalité, mais les cochons ne sont pas dotés de glandes sudoripares, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas transpirer. Et en fait, ils se roulent dans la boue pour réguler leur température corporelle et pour se protéger aussi des insectes nuisibles. Absolument pas par saleté.
Ce qui pose problème d'ailleurs dans les élevages où la promiscuité est tellement forte que ça leur pose des problèmes justement pour la transpiration.
Tout à fait. Bah, c'est-à-dire que déjà, ces bâtiments, pour la plupart, ne sont pas climatisés. Ils sont très souvent surchauffés en été. Donc, les maladies peuvent s'y développer de manière très rapide. Et puis, la promiscuité, ça entraîne aussi des comportements d'ennui, des comportements agressifs qui fait que ces cochons-là se blessent. En plus des blessures qui peuvent advenir par le contact sur le béton ajouré, sur les cailles bottis. Donc, il y a énormément d'infections en élevage. Beaucoup d'animaux ont des abcès, etc. Il y a assez peu d'élevages. Bon, tous les élevages intensifs et industriels sont violents, mais l'élevage porcin en particulier inflige un certain nombre de maltraitance aux animaux. Ouais.
Et donc, c'est un animal qu'on n'a pas compris, en fait, qui vit à nos côtés depuis assez longtemps.
Tout à fait, vous faites bien de revenir à la question.
On est passé complètement à côté, en fait.
Pendant très longtemps, les études qui ont été menées sur l'intelligence des cochons, elles ont été menées à des fins d'enrichissement du milieu, c'est-à-dire de façon à rendre l'élevage encore plus prolifique. Et finalement, c'est assez récent, ça fait quelques décennies que l'éthologie s'intéresse véritablement à l'intelligence des cochons et nous permet de les percevoir différemment.
Caroline Dubois, c'est vrai qu'on manquait jusqu'à maintenant de littérature scientifique sur la question.
Vraiment, oui, tout à fait. Les vétérinaires eux-mêmes, quand on doit faire soigner un cochon pour ce qu'il est, donc pour un individu à part entière, ont du mal, puisqu'en fait, ils ont des réflexes d'élevage, donc ils vont pouvoir soigner une maladie dans un élevage. En revanche, déterminer une maladie par rapport à des symptômes, pour eux, ils n'ont aucune expérience, pas de littérature, et en fait, ils apprennent sur le tas.
Ouais. Et d'ailleurs, si je peux me permettre d'ajouter, c'est depuis que des cochons sont accueillis en refuge qu'on a pu définir à peu près quelle était leur longévité.
Oui.
Puisque les cochons étant abattus en élevage au bout de 180 jours, on ne savait pas véritablement quelle pouvait être leur longévité, comment est-ce qu'ils pouvaient évoluer dans le temps avec cette croissance extrêmement rapide qui est la leur aujourd'hui par sélection. Donc on a aussi obtenu de nouvelles données grâce au refuge.
Et sur les cochons sauvages, alors, on a des informations un petit peu ou pas?
En termes d'éthologie?
Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on arrive à les suivre un petit peu ou c'est compliqué?
Oui, alors les cochons sauvages, essentiellement, ça va être les sangliers pour l'Europe. Donc, on a quelques éléments qui nous permettent d'avoir des comparaisons. En particulier, on voit que les laits, donc les femelles des sangliers, font beaucoup moins de petits à l'état naturel que les truies aujourd'hui en élevage, qui peuvent faire 15 petits par portée. Il faut savoir qu'on était à ces 5 de plus qu'en 1975. Elles faisaient à peu près 10 porcelets par portée. Aujourd'hui, c'est 15, avec tous les troubles que ça peut entraîner pour ces truies.
Dans des conditions qui sont épouvantables, Caroline Dubois, puisque ces truies, elles sont parquées, elles ne bougent pas, elles ne peuvent même pas se retourner, écrasent parfois même leurs petits.
Oui. Elles passent la moitié de leur vie encagées dans des cages qui ont la forme de leur corps. Donc elles peuvent juste s'asseoir, se coucher ou se lever. Et les petits, eux, ont accès aux mamelles par en dessous. Et donc elles passent la moitié de leur vie, sachant qu'au refuge, une truie va aller chercher de la paille pour faire un nid. Elles sont exploratrices à 70% de leur temps et passées à l'exploration. Donc elles vont aller récupérer de la paille, faire des nids, farfouiller le sol. Elles broutent, les cochons broutent. C'est un truc, enfin moi je l'ai appris en le voyant de ma truie. Je l'aurais jamais deviné. Toute la journée, au refuge, vous voyez des cochons qui font comme les chevaux ou les vaches, et vous vous dites elles vivent donc, ces truies et ces cochons vivent dans des élevages industriels où il n'y a strictement rien à faire.
Jean-Baptiste Lamo.
21% des porcelets meurent en élevage avant l'âge où ils devraient être envoyés à l'abattoir, et un quart des truies, ce qui laisse imaginer la somme des pertes.
Castration à vif, dents arrachées, queue coupée, est-ce qu'on peut considérer le cochon comme l'animal le plus maltraité par les humains, Jean-Baptiste Lamo?
Certainement. Sur la question de la castration à vif, ça a été légiféré en 2022. Normalement, elle n'est plus autorisée sans l'intervention d'un vétérinaire et l'application d'un produit analgésique.
Ouais. Mais pour les queues aussi, les faits, hein. Ça devrait ne pas se faire.
Dans les faits, c'est impossible. Vous imaginez bien qu'on ne va pas dépêcher un vétérinaire sur un élevage à chaque fois qu'il y a une naissance de porcelet. Donc effectivement, ça fait partie, je crois, des élevages dans lesquels les animaux sont les plus attaqués dans leur intégrité, modifiés physiquement, et doivent subir tout au long de leur vie une série de sévices jusqu'à l'abattoir.
Un qui est sympathique de sévices, ça s'appelle le claquage. Donc c'est une méthode reconnue pour tuer un bébé cochon en élevage industriel. Donc il suffit de prendre le cochon par les pattes arrière et le fracasser contre un mur ou le sol. Et c'est une pratique
très courante.
Voilà. Oui,
absolument.
Est-ce que, Jean-Baptiste Delamo, quand on arrive à discuter justement avec les propriétaires de ces élevages industriels, est-ce qu'on arrive quand même à pouvoir discuter de la question de la souffrance de l'animal ou pas du tout? C'est une question qui est éludée complètement.
C'est pas évident. Alors bien sûr, ça dépend des éleveurs auxquels on s'adresse. On a certains éleveurs qui se sont adressés au refuge Groingouin parce qu'ils avaient pris conscience de la violence qui était intrinsèque véritablement à ce système d'élevage et qui ont demandé au refuge d'accueillir leurs cochons parce qu'ils ne pouvaient plus supporter de faire partie de ce système-là. J'ai aussi rencontré un certain nombre d'éleveurs qui étaient dans des élevages intensifs et qui, je crois, avaient mis une telle distance entre eux et l'animal qu'ils ne voyaient même plus où était le problème de cette violence quotidienne et qui est encore une fois systémique.
Ouais. Et nous, en tant que consommateurs, alors comment se fait-il que nous ignorions au fond, alors même que nous voyons des images, celles de L214, par exemple, dans les abattoirs où les caméras arrivent à s'introduire, pourquoi est-ce que quand on consomme justement de ces animaux-là, on oublie ce qui se passe derrière les murs des abattoirs ?
Il y a cette question de la dissonance cognitive, je crois, qui fait que nous avons du mal tout de même à établir le lien entre ce que nous avons dans l'assiette et l'animal, même si aujourd'hui, je trouve que ça devient de plus en plus difficile d'avancer cet argument-là, parce que nous avons vu les vidéos, elles circulent largement, je pense que tous les consommateurs sont aujourd'hui informés. Il y a une thèse qui me semble assez intéressante, même si elle est aussi en partie désespérée, c'est celle de Florence Burga, développée dans l'Humanité Carnivore, où elle explique que probablement nous continuons, même en sachant d'où vient la viande, de consommer la chair animale, parce que c'est une façon pour nous de garder une supériorité sur l'animal.
Allez, rejoignez-nous pour discuter cochon sur cette Terre au Carré. Si vous avez des messages, des témoignages, des questions pour nos invités, franceinter.fr. Tell you that I don't know, but you're favored now by 50 and Everything is peaceful love, c'était Bon Iver sur France Inter.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Vous avez, avec un cochon, un contact intellectuel. Vous n'êtes pas forcément dans ses papiers, vous n'êtes pas forcément son amie qu'elle adore et qu'elle respecte, mais elle est d'une telle intelligence qu'elle sait tout. Elle repère tout, elle voit tout, elle entend tout, elle est au courant de tout. Voilà Zoé, le personnage essentiel de la ferme. Elle est en surpoids car la vie lui est douce, patronne. Elle ne fait que ce qu'elle veut. Forte en caractère, elle n'apprécie pas la controverse. Voilà ce que le petit poème que j'écris au sujet de cette délicieuse cochonne, la cochonne de ma vie.
Voilà, c'est la voix de Joël Moine en 2016 dans une émission de France 3 Provence qui s'appelle Fou d'animaux et qui parle donc de Zoé, cette cochonne de 300 kilos qui vivait en liberté dans la cour de sa ferme et qui savait même, paraît-il, ouvrir les portes de voiture avec son groin. Jean-Baptiste Delamo et
on,
Caroline.
On le croit.
Oui, totalement.
C'est
totalement.
Vrai, vous l'observez ça chez,
bien,
chez vos cochons?
Évidemment, ils ont très vite repéré le frigo ou l'endroit où vous avez la nourriture.
Ouais, les tiroirs.
Ils arrivent à ouvrir les portes, etc. Bien sûr.
Bon, est-ce que vous avez un contact intellectuel avec Frida, votre truie?
J'ai un contact intellectuel et poétique avec Frida, parce que bien évidemment, le contact avec ces animaux, c'est aussi une façon de se mettre à leur portée, de percevoir le monde différemment. Ce dont on a pu s'apercevoir en les côtoyant, que ce soit au refuge ou de manière plus individuelle, c'est que chaque cochon a une identité propre, une personnalité, et qu'ils ont aussi, comme le laisse deviner le témoignage de ce monsieur, les défauts de leur intelligence. Ils sont caractériels, ils ont leur tête, ils savent jouer des tours, il y a des matins où ils font la gueule, il y en a d'autres où ils sont meilleurs. Oui, bien sûr.
Ils sont têtus.
Caroline
Dubois. Têtus, vraiment, vraiment, on a vraiment des personnages au refuge, donc c'est assez rigolo. On a des cochons très joueurs, des cochons qui sont absolument grincheux. Et d'ailleurs, on les adore parce que c'est chouette de pouvoir voir évoluer ces animaux sans avoir vraiment une proximité avec eux. Ils ont vraiment des personnalités différentes et c'est au quotidien assez troublant.
Et ce sont des animaux sociaux, c'est pas du tout des animaux solitaires.
Ils ont besoin de vivre à plusieurs pour être épanouis et pour se sentir bien dans leur basket.
Ils ont des affinités entre eux, il y a des amitiés entre cochons. Et
au refuge, on a la chance de ne pas d'avoir des familles qu'on a été sauvées et qu'on n'a pas du tout séparées. Et donc, on a des familles qui vivent ensemble dans un enclos un peu plus grand avec d'autres individus. Vous retrouvez la fratrie dormant les uns contre les autres tout le long de leur vie. Oui,
totalement. Et Jean-Baptiste Delamo, est-ce que Frida supporte la controverse ou pas du tout alors?
Elle aime pas trop qu'on lui oppose une forme d'autorité.
C'est vrai
sûr que c'est aussi la reine de la maison.
Ouais.
Et pour revenir sur cette question des interactions entre cochons, peut-être que Caroline peut en dire quelque chose, mais le refuge avait accueilli une truie aveugle qui a été guidée pendant de longues années par un ami cochon.
C'est ça, on avait Pompon et Eston, et Pompon était aveugle, donc c'était une truie basque, et elle suivait Eston, lui servait de poisson pilote.
C'était son guide.
Guide. Ils étaient tout le temps ensemble, mais tout le temps ensemble. Vraiment, c'était incroyable. Et il a tellement bien guidé que Pompon a repéré le refuge sans jamais cogner dans quoi que ce soit. Elle arrivait vraiment à se débrouiller parfaitement bien dans le refuge.
Comment est-ce qu'on peut vivre avec un cochon? Parce que élever un cochon, c'est pas simple. Vous l'avez dit en début d'émission. Il y a peut-être tout de suite des précisions à apporter sur cette question-là.
En fait, il faut se renseigner à l'avance. Il faut savoir de quoi ils ont besoin. Et donc, sur le site du refuge, vous pouvez trouver exactement toutes les informations qui permettent de vivre correctement avec un cochon. Il y a 2-3 règles à respecter. Être plus têtu qu'eux. Et puis avoir un environnement qui leur permette de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Oui. Donc évidemment, une maison avec un jardin. Inutile d'avoir un cochon en appartement, ça n'aurait absolument aucun sens.
C'est ça, plutôt qu'un jardin, un champ miné, on va dire, puisqu'en fait, ils retournent la terre et font des trous.
Champ miné?
Oui, en fait, ils peuvent faire un trou d'un mètre cube en à peu près 2 heures, je pense. Jean-Baptiste pourra aussi le dire, mais voilà. Il faut de l'herbe, parce qu'ils aiment brouter, ils aiment avoir leurs activités, et il faut surtout des compagnons cochons pour qu'ils soient heureux.
Ah oui, donc en plus, il ne faut pas en avoir qu'un seul.
Effectivement, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Et ils ne s'entendent pas très bien avec les chiens, parce qu'ils il communique très mal. Oui. Donc bébé, ça va, mais adulte, il y aura vraiment
donc
des bagarres.
Jean-Baptiste Delamo, vous êtes le contre-exemple puisque vous avez 4 chiens et un seul cochon
et
à la maison.
Cochon, mais ce que je peux rajouter, c'est que c'est important avant tout de pouvoir lui offrir un endroit sécurisé, d'avoir un enclos fermé qui permette justement de séparer chien, cochon, et oui. Ça permet justement voilà, de les garder, de les sécuriser, ce qui est souvent ce qui fait défaut en fait aux gens qui en adoptent.
Il y a cette loi du 16 février 2015 qui a fait des animaux des êtres vivants doués de sensibilité. Est-ce que cette loi a amélioré la vie des cochons dans les élevages, Jean-Baptiste Delamo, franchement?
Malheureusement pas.
Est-ce, tout comme les vidéos d'ailleurs de L214 montrant la souffrance animale, est-ce que ça a amélioré la condition de vie des animaux?
Alors je pense que déjà ces vidéos, elles ont eu pour intérêt de permettre aux consommateurs de prendre conscience de la réalité de l'élevage et aux industriels aussi de les mettre face à leurs responsabilités. Parce que certes, le changement de législation en 2015 a mis en lumière la sensibilité des animaux, mais ça a surtout permis de définir une certaine législation qui devait encadrer la question du bien-être animal en élevage. Ouais. Malheureusement, c'est très difficilement applicable dans la réalité de l'élevage industriel. Aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous préconisez, vous, aujourd'hui? C'est quoi votre mot, finalement, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des cochons? C'est, bah, évidemment, j'imagine, arrêter de les manger.
Bien évidemment.
Mais sans aller forcément jusque-là, pour
avant
ceux
tout,
qui...
Je pense qu'il faut qu'on soit capable de considérer les cochons en fonction de leurs propres intérêts et non pas des leurs. Et à partir du moment où on considérera les animaux selon leurs propres intérêts, je pense que ça redéfinira complètement notre rapport avec les animaux, avec le vivant de manière générale, et bien évidemment avec les animaux en élevage.
Et ces vidéos, elles ont permis aussi, vous le dites, d'être la voix des cochons, ce qui déjà aussi est une façon de les visibiliser.
Oui, elles ont révélé un certain nombre de pratiques quotidiennes et inhérentes à l'élevage porcin qui étaient méconnues, voire totalement inconnues de la plupart du grand public.
Allez, on va passer aux questions des auditeurs et auditrices. Des questions sur les fermes-usines. Baptiste demande 200 000 cochons, c'est absolument improbable. Est-ce que cette viande chinoise arrive en France? Et si oui, sous quelle forme? Est-ce que vous le savez, ça?
Je le sais pas.
C'est une bonne question. Je n'ai pas de chiffres à ce sujet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on estime à peu près aujourd'hui à 6 milliards le nombre de cochons tués dans le monde.
Oui.
Et bien évidemment, cette viande aussi voyage. Alors, il faudrait interroger les économistes pour savoir exactement dans quelle mesure est-ce qu'elle est importée en Europe.
Oui.
Mais c'est une vraie question.
Stéphanie dit, est-ce que vous pourriez redire que les cochons sont des animaux très propres? Je ne traite plus jamais mes fils de porc depuis que j'ai rencontré des cochons bien traités dans une ferme bio du Lot, bien plus propre que mes rejetons.
Stéphanie. Tout à fait. Non, tout à fait. Ils sont vraiment très propres d'instinct, un petit peu comme un chat. Donc, si vous les laissez enfermés dans un box, ils vont aller faire leurs excréments à l'opposé complet de là où se trouve leur repas ou leur gamelle.
Bertrand nous dit, comment mieux consommer sans forcément devenir végétarien ou vegan? Y a-t-il des labels de bien-traitance animale, Jean-Baptiste Elamo?
Certains labels voudraient vous faire penser que oui, mais malheureusement, et encore une fois, il faut se référer aux vidéos montrées par les associations, quel que soit le label utilisé, on s'aperçoit que la violence est intrinsèque même à l'élevage. Mmh. Et aujourd'hui, je crois, surtout en termes de produits issus de l'élevage porcin, on trouve de nombreuses alternatives végétariennes et végétaliennes qui permettent vraiment de remplacer très facilement ce type de viande.
Charlotte nous écrit depuis... Pardon, Caroline Dubois.
Je voulais juste préciser qu'en fait, c'est 95% des cochons qui sont élevés en élevage industriel.
Oui.
Donc on n'a pas le choix, on est... Enfin... Voilà.
On passe forcément par la maltraitance, quasiment. Hein. Charlotte, pardon, de Munich, quand on me demande surprise si je ne mange plus de porc pour des raisons religieuses, et depuis quand, je réponds simplement 2017, règne animal. Merci, dit-elle à Jean-Baptiste Delamo, pour ce roman puissant qui a changé ma vie. Et ça a été le cas de beaucoup de gens, j'imagine, qui ont témoigné.
Oui, j'avoue que c'était pas mon objectif. Je comptais pas rendre les gens végétariens avec ce texte-là, mais s'il a eu cet effet collatéral, je ne peux bien évidemment que m'en réjouir.
Mireille nous dit avoir un ovni du cinéma documentaire Cochon qui s'en dédie, un film de Jean-Louis Tacon.
Jean-Louis
Le Tacon, sur un jeune producteur de porc en Bretagne dans les années 70, édifiant sur le sinistre avenir de cette activité.
Superbe documentaire qui, je crois, est disponible en intégralité sur YouTube.
Ouais, Manuel nous dit, j'ai moi-même une cochonne babette qui a été récupérée par une amie des mains de deux idiots ivres qui jouaient avec dans un parc. Elle hurlait et sur menace de la police, ils l'ont laissée tomber. J'ai babette depuis 2019, elle connaît son prénom, bien sûr, vient vers moi en tendrement et la queue, se laisse tomber sur le côté pour un gros câlin du bidon. Je la badigeonne d'huile de coco et d'aloe vera.
Pour la peau sèche, tout à fait.
Bon, car sa peau est sèche, mais elle a confiance en moi. Par contre, un homme entre dans l'enclos comme moi, elle le craint. Le refuge Groingroing a été d'un grand secours quand elle est arrivée dans ma vie. Mais voilà, quelqu'un qui a...
Et bon, on est ravis d'avoir pu aider.
Est-ce qu'on peut vous aider, justement, chez Groingroing?
Alors oui, tout à fait. On peut
parrainer nous aider. Des animaux.
Tout à fait. On peut parrainer des animaux. Donc vous pouvez devenir le parrain de Nana la truie aveugle.
C'est
vous pouvez,
ça.
Tout à fait. Et vous pouvez aussi faire du bénévolat pour Groingroing. Si ça vous dit, vous pouvez nous contacter pour faire du bénévolat.
Et on peut passer par votre site internet.
Tout hein. à fait.
Il y a toutes les infos. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Caroline Dubois, Jean-Baptiste Delamo. On peut lire Règne animal, prix Inter quand même, prix du livre Inter en 2017. Merci beaucoup pour votre venue au micro de la Terre au Carré. Merci à Joël Levert qui a préparé ce dossier. À bientôt. Cyril Dion, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Avant-dernière lutte enchantée, dans un instant, de quoi Absolument. Est-ce que vous allez nous parler ?
On va parler de sortir des écrans et de retrouver de l'empathie, ça tombe bien.
Théo Mourabi pour Vers le Média, bonjour Théo.
Bonjour.
Quel sera le sujet de votre chronique tout à l'heure ?
Ce sera sur François de Rugy.
Et pourquoi donc ?
Mais je vous le dirai dans un instant.
Le retour de François de Rugy.
Ancien ministre de l'écologie. Et puis vos messages à 15h.
Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être... Blanc, noir, jaune ou rouge et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales. Avec un veston qui descend jusqu'aux genoux. Les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà les azous, voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour. Vous serez tous azous comme nous car le azous c'est contagieux. Ça commence par un tremblement. Soudain brusquement, et puis on pousse des hurlements. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre épicier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Et les azous, il les azous, il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Un de ces jours ça vous prendra. À son futur jeune avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est azou, elle est azou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de gare qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis azou, je suis azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. Ouah, 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 ouah. La société devant payer sa dette. Devant la guillotine, j'agène, il dit je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis azou, je suis azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est azou, il est azou. Il y a des azous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour, un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre azous, on s'y retrouvera. Car c'est fou ce qu'on rigolera. Quand je mets la douche, on chantera comme ça. Voilà, tout dit, tout dit, tout dit.
Brigitte Fontaine et M en 2001, il y a des azous.
France Inter, la Terre au carré.
Cyril Dion, 40e lutte enchantée aujourd'hui.
On tient le compte.
On vous écoute.
Vous avez dû le lire ou le voir comme moi dans la presse. Le 10 juin, un adolescent a poignardé une surveillante dans son collège. Dans une sorte de coïncidence macabre, ou peut-être pas, cet événement faisait écho au scénario d'une série sortie peu de temps avant, dont le succès fulgurant avait traversé 80 pays, Adolescence, où le héros poignardait lui aussi une de ses camarades. Tous les médias n'ont parlé que de ça pendant deux jours en se demandant fébrilement mais comment un enfant peut-il en arriver à faire une chose pareille. Le 12 juin, le psychiatre Serge Effès sonnait l'alarme sur le plateau de l'émission C'est ce soir. Pour lui, la capacité d'éprouver de l'empathie chez les adolescents serait en chute libre. Parmi les causes de cette situation, l'exposition de plus en plus précoce et prolongée aux écrans. L'empathie se développe au contact des autres, des regards, des conversations, des expériences communes, de la proximité des corps, des peaux, lorsque l'émotion circule entre deux personnes, ou entre une personne et un animal. Constamment, observer le monde par l'intermédiaire d'un écran ne permet pas au cerveau des jeunes enfants d'établir ces connexions et peut créer un rapport de plus en plus distancié à la souffrance et à la mort.
Chez des adolescents. Donc, combien de temps un ado regarde un écran en moyenne, Cyril ?
Un adolescent de 15 ans, c'est 15 ans et plus d'ailleurs, passerait désormais plus de 5 heures par jour devant son écran à regarder des vidéos. Donc ça, c'est une étude commandée par l'ARCOM aux instituts médiamétrie et CSA qui le dit. Temps auquel on peut souvent ajouter les jeux vidéo, le temps d'écran pour travailler, donc disons au moins 6 heures, donc au moins un tiers du temps éveillé. C'est en moyenne une heure de plus chaque jour qu'il y a 10 ans, et cette exposition croissante a de multiples conséquences, comme l'a constaté la docteure en psychologie Jean M. Twinge.
Et alors lesquelles par exemple ?
Alors, dès 2012, l'année où la proportion d'Américains qui possèdent un smartphone a dépassé les 50%, Twinge observe des changements comportementaux et émotionnels brutaux chez les adolescents. Elle croit d'abord à une erreur, mais ces tendances se confirment les années suivantes. La scientifique avoue ne jamais avoir rien vu de tel en 25 ans de travail sur les différences entre générations. Plus ses travaux se précisent et plus elle mesure à quel point cette nouvelle génération a été façonnée par l'émergence concomitante des smartphones et des réseaux sociaux. Alors certes, ces adolescents sont moins exposés aux accidents de voiture, consomment moins d'alcool, ont des relations sexuelles plus tardives, ça je sais pas si c'est bien, mais ils sont, selon la chercheuse, à la lisière de la pire crise en matière de santé mentale depuis des décennies. Une étude conduite par le Monitoring the Future Survey confirme cette tendance. En gros, depuis 1975, ils interrogent chaque année des lycéens sur des nombreux aspects de leur vie et sur leur sentiment de bonheur. Et les résultats sont édifiants, sans aucune exception. Tous les élèves qui passent plus de temps que la moyenne à pratiquer des activités impliquant un écran se sentent moins heureux que ceux qui passent plus de temps que la moyenne sans écran. Et de loin. En réalité, plus un enfant passe de temps devant son écran, plus il a de chances de développer des symptômes dépressifs.
Et on peut imaginer que c'est la même chose pour les adultes ?
Absolument, ce qui n'arrange pas nos problèmes, loin de là. Évidemment, les écrans ne sont pas les seuls responsables de la violence, de l'intolérance, de la dépression. Ces phénomènes sont la résultante d'une myriade de facteurs et existent depuis fort longtemps. Mais ces écrans creusent une tendance. Ils avalent notre temps, ils fragmentent notre attention, nous enferment dans des bulles de filtres, ça ce sont les algorithmes et les réseaux sociaux particulièrement, ils nous rendent plus perméables à la manipulation, ils nous distancient du réel, et si en plus leur usage massif fait effectivement chuter notre faculté d'empathie, nous avons un très gros problème. Car comme je l'ai déjà évoqué ici, notre capacité à nous mobiliser pour sauver le climat, stopper l'éradication des insectes, des populations d'animaux vertébrés, mais aussi nous dresser pour venir en aide aux autres humains, dépend étroitement de notre faculté à faire grandir notre capacité à l'empathie, à la faire passer de notre cercle restreint, nos amis, nos familles ou nos animaux familiers, à l'ensemble des vivants. Comme le disait Jane Goodall dans le film Animal, on ne protège que ce que l'on aime et on aime que ce que l'on connaît. Donc lutter passe aujourd'hui par une nouvelle voie, le plus possible sortir des écrans, des réseaux sociaux, renouer avec l'expérience directe, tant dans la nature qu'avec les autres humains ou avec les animaux. C'est aussi un enjeu démocratique fondamental. Et ça, c'est ce dont je vous parlerai la semaine prochaine pour ma toute dernière lutte enchantée.
Allez faire un stage chez Groingroin, par exemple.
Et bien sûr, voilà, je vais y aller.
Mieux que les écrans. À la semaine prochaine, Cyril.
À la semaine prochaine.
Théo Mourabi, pour Vers le Média, vous nous parlez de votre enquête sur François de Rugy. Alors, on aimerait vraiment savoir de quoi il s'agit.
Oui, Mathieu, tout à fait. Alors, pour ceux qui ne s'en rappellent plus très bien, François de Rugy, c'était le ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron en 2019. C'est lui qui avait été obligé de démissionner après la fameuse affaire des homards. L'affaire des homards, souvenez-vous, c'est quand Mediapart avait révélé que de Rugy organisait des dîners fastueux, notamment à base de crustacés, payés avec de l'argent public. Et bien, 6 ans plus tard, à Vert, on a eu des nouvelles de l'ancien ministre.
Ah.
Il a aujourd'hui une chaîne YouTube pour, je cite, « lutter contre la désinformation en matière d'écologie ».
Prometteur. Oui.
Et là, Mathieu, vous allez me dire, mais où est le problème ? Eh bien, le problème, c'est que c'est l'ancien ministre lui-même qui relaie des fausses informations. Je vous donne un exemple avec sa dernière émission sur l'acétamipride. Vous savez, c'est ce pesticide accusé de tuer les abeilles dont on a beaucoup parlé dernièrement avec la loi Duplon qui veut le réintroduire en France. Sur ce sujet, François de Rugy prétend que l'insecticide n'est pas dangereux ni pour les abeilles, ni pour la santé humaine. Mais si vous avez lu les articles de Vert sur ce dossier, notamment ceux de mon collègue Esteban Grépinet, vous savez que c'est faux. L'acétamipride est un insecticide, donc par définition, il tue des insectes, et notamment les abeilles. Et avant même de les tuer, il peut leur faire perdre la mémoire ou les rendre incapables de voler, ce qui complique sérieusement les chances de survie. Des études récentes ont même conduit l'EFSA, c'est l'autorité qui rend des avis sur les risques des pesticides dans l'Union européenne, à reconnaître des incertitudes majeures sur la santé humaine, soit à l'inverse de ce que dit Dorigy.
Est-ce qu'il y a, Théo Mourabi, d'autres contenus problématiques sur la chaîne de l'ancien ministre ?
Alors oui, il a aussi fait deux vidéos contre la loi qui vise à interdire les PFAS, votée en février dernier. Les PFAS, ce sont ces polluants éternels qui s'infiltrent partout, y compris dans nos corps, et qui peuvent provoquer des cancers et des maladies. Eh bien, Dorigy est contre leur interdiction. Et il relaie les arguments des industriels, pourtant largement contredits par la recherche scientifique, sur le sujet. Et enfin, sur son plateau, il invite aussi des invités avec des profils un petit peu controversés sur l'écologie, comme la journaliste du Point, Géraldine Vosner. Alors, nous, à Vert, on a contacté François Dorigy. Et lui, il dément toute désinformation. Il dit appuyer sur ses propos sur des études scientifiques.
Mais alors comment un ancien ministre de la transition écologique, on le rappelle, en est arrivé là ?
Pour essayer de le comprendre, j'ai contacté des personnes qui travaillaient avec lui lorsqu'il était au gouvernement. J'ai eu une ancienne collaboratrice qui était très surprise quand je lui ai raconté tout ça. J'ai aussi contacté ses anciens alliés écologistes, chez qui il avait débuté et où il n'a pas vraiment laissé une bonne image, qui eux l'étaient un petit peu moins. Franck Nicolon, par exemple, c'est un élu écolo avec qui il a milité chez les Verts dès la fin des années 1990. Il explique par le fait que Dorigy souhaite être proche du pouvoir et de gouverner, et c'est ça, selon lui, qui l'aurait conduit à faire ce virage à droite. Et justement, au mois de mars, il a été nommé à un poste de vice-président, au Conseil régional des Pays de la Loire, qui est gouverné par la droite, et il a déjà déclaré son soutien à Édouard Philippe pour l'élection présidentielle de 2027.
Merci beaucoup Théo Mourabi. On peut lire cette enquête sur votre média vert.eco. Et puis c'est la dernière semaine aussi pour soutenir votre campagne pour développer la vidéo et faire plus d'enquêtes en l'occurrence. On termine comme tous les jours avec le répondeur.
Bonjour, c'est Philippe, je vous appelle de Bandol. Je suis apiculteur et j'écoute avec attention l'émission. Et je voulais vous dire que les frelons asiatiques, c'est très très grave, très très grave. J'ai l'impression que la sonnette d'alarme, elle n'a jamais été tirée. Parce que en ce qui me concerne, j'avais 5 ruches, j'en ai aucune. Et autour de moi, je connais des dizaines d'apiculteurs qui n'ont plus de ruches ou qui arrêtent parce qu'ils se font dévaster par les frelons asiatiques. Donc il serait temps que la sonnette d'alarme soit tirée. Je vous remercie, bonne journée.
Claude Anthony, j'ai vu une perruche verte attaquer un écureuil dans un endroit, c'est une résidence avec beaucoup d'arbres et où les écureuils sont moins fréquents maintenant. La perruche était vraiment très agressive.
Bonjour, Eric, Aix-en-Provence. Je viens d'écouter votre émission sur une centrale à bitume classée ICPE où il était dit que c'était dangereux pour l'environnement. ICPE, ça veut dire justement qu'il faut protéger l'environnement, donc c'est classé à ce titre. Si ça fonctionne bien, c'est pas dangereux. Donc c'est le but des études qui sont faites, le classement ICPE. Merci.
Bonjour, c'est Jacques de Nantes, agriculteur. Je viens d'écouter l'émission sur les espèces invasives. Et c'est dommage que j'ai fait, selon moi, un oubli, à savoir l'espèce humaine, qui est l'espèce la plus invasive de notre planète. Au revoir, merci encore.
Elisabeth de Beauvais. Le 11 juin, Cyril Dion, dans sa chronique de la lutte enchantée, chronique intitulée ce jour-là « L'humanité est capable du pire mais aussi du meilleur », nous demandait d'entrer en résistance, de devenir les résistants d'aujourd'hui, évoquant ceux qui, de par le monde, se mobilisent déjà. À Cyril Dion, je voudrais dire merci. Oui, je confirme que depuis le début du conflit en Ukraine, il y a des manifestations, il y a des rassemblements en France et donc en particulier à Beauvais, qu'il pleuve, qu'il gèle ou que le soleil brûle. Parfois nous sommes nombreux, parfois trop peu, mais force nous est de constater qu'à ce jour, nos dirigeants ne semblent ni nous voir, ni nous entendre. Alors l'écologie, pour Cyril Dion, c'est se soucier de tous les êtres vivants. Eh bien, je suis vraiment tout à fait d'accord avec lui. Et à nouveau, merci, monsieur.
Voilà, monsieur Dion, ce petit message d'Elisabeth, vous pouvez lui répondre, puisqu'elle vous l'a laissé.
Non, mais je vous remercie beaucoup. Voilà. Et ça me touche que vous le viviez comme ça aussi.
01 56 40 45 45, vos messages sur le répondeur. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour, Mathieu Vidard.
Affaire sensible dans un instant.
Aujourd'hui, l'affaire Jimmy Savile.
À tout de suite.
Il y a des choses que je n'ai jamais dites à ma famille. J'ai effacé notre cassette de mariage en enregistrant du foot. Ce n'est pas le chien qui a cassé le vase, c'est mon coude. Et quand je dis que j'aime les réunions de famille, c'est surtout pour le dessert.
on peut ne pas tout dire à ses proches. En revanche, leur dire qu'on est donneur d'organes, c'est important. Le don d'organes sauve des vies. Alors rappelez à vos proches que vous êtes donneur. Ceci est un message de l'Agence de la biomédecine, agence relevant du ministère de la Santé.
Bon ?
C'est ça, il est bon ton jambon.
Jambon de Bayonne.
Ah bah oui.
Le jambon de Bayonne, bon pour le goût, bon par engagement, bon tout simplement.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Pourquoi le climat change-t-il ? Quelle solution pour protéger notre planète ? Le CNED présente une nouvelle version du Béaba du climat et de la biodiversité, la première formation en ligne grand public réalisée avec des scientifiques. Des données mises à jour, des activités enrichies, des vidéos inédites pour comprendre et agir. Rendez-vous sur climat.cned.fr, un partenariat Radio France.
France Inter, partenaire de la 45e édition du Festival Montpellier Danse, du 21 juin au 5 juillet. Montpellier devient la capitale de la danse. Dans les théâtres et dans les rues, se succèdent les nouvelles créations d'artistes de toute esthétique, de tout continent, qu'ils soient des grands noms de l'art chorégraphique ou des talents à découvrir. 45e édition du Festival Montpellier Danse, le rendez-vous immanquable des amoureux de la danse du 21 juin au 5 juillet, un événement France Inter.
Vos réactions en direct, prenez la parole à tout moment sur l'appli Radio France.
Merci pour vos messages et puis n'oubliez pas bien sûr que demain on se retrouve avec une émission sur le capitalisme, ce sera la dernière.